cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe, le 1er février, l'an 2001, à Saint-Jean-d'Arc.
En parlant avec un frère, je lui dis qu'en philosophie éthique, je pars de mon expérience. Or, mon expérience est chrétienne. Il me regarde d'un air soupçonneux et me dit « Non, elle part de ton expérience humaine. » Non, on part de ton expérience humaine. Je lui réponds « Je n'ai pas d'expérience humaine, mais chrétienne. » Puisque l'on n'a qu'une seule vie, la vie chrétienne, Père, n'est-il pas dangereux de télescoper mon expérience chrétienne en décrivant une expérience humaine? Et je n'ai pas, et donc je n'imaginerai pas. Bon, il n'y a qu'une seule vie, ma vie chrétienne. Donc, l'expérience que j'ai est chrétienne et humaine. Tout ce qui est chrétien est humain, puisque la grâce présuppose la nature. Vous n'avez pas d'expérience d'un chrétien pur et non humaine. Donc elle est humaine aussi. Je peux, par mode de réflexion, voir dans mon expérience ce qui est humain et donc sur lequel je peux réfléchir philosophiquement. Autrement, il n'y aurait pas de philosophie dans l'Église. Or, le Saint-Père nous dit expressément qu'il doit y avoir une philosophie, il doit y avoir des chrétiens philosophes. Être chrétien ne m'interdit pas d'être philosophe. Au contraire. Être chrétien me demande d'être philosophe. Si j'ai le temps de l'être, si je puis l'être, pour parler à des hommes non chrétiens, autrement, vous enfermerez, si j'ose dire, et vous ne pourrez jamais parler à quelqu'un qui n'est pas chrétien. Vous pouvez parler à un homme qui n'a pas la foi, mais qui est un homme, et qui a son éthique, et qui a son activité humaine. Et son activité humaine est bonne, respectable, jusqu'à un certain point. Vous voyez ? Alors, cette petite querelle, ou ce petit désaccord, provient tout simplement. Il faut regarder le jugement d'existence. C'est toujours ça qu'il faut. Quand j'abstrais, quand je suis uniquement au niveau de l'appréhension du chrétien et du non-chrétien est la même. Vous n'avez aucun concept nouveau étant chrétien. Autrement, vous allez dire, vous savez, comme disait le père Guérard, il y a une nouvelle notion de relation, parce qu'il y a la Très Sainte Trinité. La Très Sainte Trinité n'est pas faite pour me donner une nouvelle notion de la relation. Elle est faite pour qu'on adore Dieu et qu'on l'aime. Et mon jugement chrétien ne me donne aucun concept nouveau. Autrement, il n'y aurait pas de théologie. Et il faut être très très net là-dessus. Et l'encyclique du Saint-Père est merveilleuse pour ça. Parce qu'elle nous montre bien que le Saint-Père montre l'Église n'a pas de philosophie propre. Parce que la philosophie, c'est quelque chose d'humain. C'est mon intelligence humaine. Et mon intelligence humaine demeure, même si je suis chrétien. Et mon intelligence humaine peut même avoir une liberté plus grande si je suis chrétien que si je suis marxiste. Le marxisme abîme l'intelligence humaine. Le christianisme élève mon intelligence humaine. Et si elle élève mon intelligence humaine jusqu'à une adhésion de foi, elle me donne une liberté plus grande pour être philosophe. Vous savez, au début, je vous demande d'y croire, parce que c'est l'enseignement du pape. Petit à petit, vous ne le croirez plus, parce que vous aurez l'expérience de la chose. Quand je lis l'enseignement du pape sur le philosophe, mais c'est pas la foi, je dis, c'est exactement ce que je pense. Ce que je pense comme philosophe. Il n'y a pas de philosophie chrétienne parce que nous sommes créés par Dieu, un créateur. Et mon jugement chrétien, c'est de dire je suis appelé et sauvé par le Christ à une vie de fils de Dieu. Mais affirmer que Dieu est le créateur de mon âme, ce n'est pas ma vie de chrétien qui me dit ça. C'est mon intelligence philosophique et humaine qui me fait découvrir que l'âme existe et qu'elle est créée par Dieu. L'existence de Dieu, je l'ai, je la connais par ma philosophie. Je la découvre par ma philosophie et non par ma foi. Donc, je suis d'accord que toutes vos expériences en tant que chrétien, je dirais, je suis chrétien, toutes mes expériences sont faites pour découvrir la vérité. Mais peut-on dire expérience chrétienne ? Là, le point de vue délicat. Je peux dire expérience chrétienne quand je pars de ma foi. Quand vous dites « Ah, cette soupe, elle est trop chaude », c'est une expérience chrétienne. Vous allez commencer la prédication du dimanche par la soupe chaude. C'est une expérience humaine. La soupe est chaude, trop chaude. Quand vous dites « ce vin est bon » et que c'est une expérience chrétienne, c'est l'expérience d'un chrétien qui boit un bon verre de vin et qu'un homme encourage. Distinguez bien. Expérience chrétienne, il faudrait qu'elle soit informée par la foi. Que la foi, le jugement d'existence de la foi, soit là présent. Dire expérience d'un chrétien, oui, je n'ai qu'une seule vie, ma vie chrétienne. Parce que vie, fait appel directement à ma finalité. Mais mon expérience, elle est limitée. Quand je dis que la soupe est chaude, c'est une expérience humaine. Un incroyant dira la même chose que moi. Mon palais ne change pas du fait que je suis chrétien. Oui, il change en ce sens que tout ça est finalisé vers la vie chrétienne, vers la béatitude. Mais je peux m'arrêter à cette expérience et la prendre comme une expérience humaine. Vous voyez ? Je n'ai pas de concept chrétien. J'ai un jugement chrétien. Le jugement de foi. Il est chrétien, le jugement de foi. Mais ce jugement de foi ne supprime pas ma nature humaine. Et ma nature humaine peut, comme nature humaine, avoir ses expériences humaines. Et alors, les deux avaient raison. Eh bien, l'éthique chrétienne n'est pas une apologétique, mais puisqu'elle implique une admiration, peut-elle être une voie pour conduire des non-croyants aux portes de la foi, comme avec les Preambula Fidei. Oui, c'est sûr. Je dirais, l'éthique chrétienne me permet d'avoir une apologétique plus vraie et de comprendre que l'apologétique, elle est ordonnée à une finalité. L'éthique chrétienne est ordonnée aussi à sa finalité, qui n'est pas la même. La finalité de l'éthique chrétienne, c'est ce que je vous ai dit, c'est de montrer comment la grâce n'est pas contre nature. Elle est au contraire ce qui va me permettre d'être plus homme. Cela, indépendamment de l'apologétique, peut être recherché. C'est ce qu'on fait en éthique chrétienne. Mais cela peut être merveilleusement un point de départ pour l'apologétique. Parce que l'apologétique montre que tout ce que j'affirme comme chrétien n'est pas contre l'homme, n'est pas un entonnoir pour mon intelligence scientifique. C'est là le point délicat, hein ? Que ma foi ne diminue en rien mes recherches scientifiques. Mon obéissance à l'Église ne diminue en rien la recherche scientifique. Parce que si l'Église a parlé dans telle ou telle manière, dans telle ou telle matière biologique, c'est parce qu'il y a erreur à louer l'avortement. Il y a erreur de dire que la mère a le droit de dire que porter son enfant, c'est trop lourd. Il faut le supprimer. Dire ça, c'est faux. C'est donner à l'homme un pouvoir qu'il n'a pas. Je n'ai pas le droit de tuer. Et donc, ce n'est pas humain de tuer. L'apologétique montrera, elle aussi, que tout ce que l'Église défend, n'empêche en rien le développement scientifique. Elle arrête des faux chemins. Et ça, c'est plutôt bon d'arrêter les faux chemins. Parce que quand on est très engagé dans une fausse piste, c'est très douloureux de voir qu'on a perdu son temps pendant 10 ans. Et l'Église, dès le point de départ, vous dit, c'est faux. Vous engagez pas par là. Alors on ne voit pas, quelquefois au début, si on avait une philosophie plus forte et plus ferme sur ce que c'est que l'homme, on dirait l'Église a parfaitement le droit de montrer que la recherche de la vérité ne se fait jamais par le mal. Même si accidentellement, on a l'impression quelquefois que de fausses pistes ouvrent. Ce n'est pas la fausse piste, c'est accidentel. Vous voyez, et l'éthique chrétienne, elle n'a pas la même finalité que l'apologétique. L'éthique chrétienne, c'est de montrer que ce que la foi, ce que l'enseignement du Christ peut permettre à l'homme de découvrir de grand dans sa nature humaine et qu'il ne découvrirait pas autrement. L'éthique chrétienne me montre par exemple le bienfait d'une philosophie réaliste. Parce que il n'y a pas d'éthique sans finalité. Et que, au point de vue chrétien, Jésus m'apporte une nouvelle finalité. Et donc, il me libère de toutes les fausses routes qui seraient d'aller à côté vers quelque chose qui ne peut pas me finaliser. L'éthique chrétienne me montre que tout ce qui est dans la ligne de la foi, loin de diminuer, loin d'enfermer mon intelligence et de la replier sur elle-même, elle me permet d'avancer plus vite, de voir les bons chemins. Donc, vous voyez, l'éthique chrétienne n'est pas une apologétique, mais puisqu'elle implique une admiration, peut-elle être une voie, tout à fait, pour conclure, pour conduire des non-croyants aux portes de la foi. Comme avec les prêtres Boula Fidei. Deuxièmement, des chrétiens qui ont perdu le sens de la foi, des chrétiens, des hommes baptisés, inscrits dans le livre de leur paroisse, qui ont perdu le sens de la foi. La théologie morale leur étant trop étrangère. Comment peut-on les aider à bien agir en vue de leur foi, en vue de leur fin? Par l'éthique chrétienne, par d'abord par l'éthique humaine. Des chrétiens qui ont perdu la foi. L'éthique chrétienne peut être quelque chose, un tremplin. C'est pas commode parce qu'ils viendront toujours à dire « moi j'ai plus la foi ». La vie chrétienne implique le croyant. Mais sûrement que le témoignage chrétien d'un chrétien épanoui, d'un chrétien joyeux, d'un chrétien paisible, sert de témoignage. Et aujourd'hui, on voit très bien la force des témoins, des convertis, parce qu'ils témoignent. Alors, ça peut aider beaucoup. Mais, vous voyez, ce n'est pas nécessaire, il n'y a pas un lien de nécessité. C'est lors du témoignage. Et écoutez la manière dont certains ont été convertis et ont une vie de converti à la foi chrétienne, ça, c'est beau, ça ouvre de nouvelles perspectives et ça peut aider beaucoup. Mais ce n'est pas le but. Je ne fais pas de l'éthique chrétienne pour pouvoir convertir davantage. Je fais de l'éthique chrétienne en vue de montrer la vérité. C'est que l'éthique chrétienne, loin d'éteindre, éclaire. Loin d'être contre le développement humain, l'éthique chrétienne montre que la foi chrétienne ouvre largement vers la vérité, vers la complexité de la finalité humaine. Alors, nous revenons sur l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne regarde en premier lieu la charte chrétienne des béatitudes. C'est Jésus lui-même qui la donne. Alors, l'analogie avec Moïse. Moïse donne la loi, Jésus donne les béatitudes. Et là, il y a une merveilleuse comparaison à faire. Ce que Moïse a donné demeure, et ce que Moïse a donné est dépassé. Et vous voyez, c'est très étonnant que les béatitudes commencent par la béatitude des pauvres. Bienheureux ceux qui ont une âme de pauvre. Alors, ce que je vous disais ce matin montre ce que Socrate disait, que la sagesse humaine, la sagesse philosophique, réclame la pauvreté. Être pauvre, c'est nous ouvrir à la vérité et à la rechercher jusqu'au bout. Être pauvre nous ouvre un accueil respectueux de l'autre, du prochain. Je crois que la béatitude des pauvres nous donne un envol, une possibilité d'aller très loin dans la recherche de la vérité. Parce que tout ce qui est contraire à la pauvreté, c'est-à-dire réclamer ses droits, nous arrête à nous-mêmes et nous empêche d'aller plus loin. Oui, l'évangile d'aujourd'hui. Pourquoi l'apôtre doit-il être pauvre ? Alors, c'est pour qu'il soit accueillant. Alors que celui qui serait riche dans le sens qui s'arrête à ses droits de propriété, qui s'arrête à ses biens, est content de lui, il se suffit à lui-même et risque de ne pas être assez accueillant vis-à-vis du prochain. Il est sûr que toute espèce de pauvreté nous ouvre un accueil beaucoup plus profond vis-à-vis du prochain. Vis-à-vis du prochain, vis-à-vis de celui qui, de fait, a des opinions très différentes que nous. Si vous avez très fort le sens que vous possédez la vérité et non pas que vous êtes possédé par la vérité, il faut bien articuler. Soit on possède la vérité et on le sait, à ce moment-là, il y a des barrières. Et l'autre le sent tout de suite. Que vous ne serez pas accueillant à ce qu'il vous dira s'il est tout à fait différent de vous. Si vous êtes pauvre, que vous cherchez la vérité, vraiment, et vous respecterez les opinions, même si elles sont fausses, de quelqu'un qui, lui aussi, à sa manière, a cherché la vérité. Mais il a été arrêté. Un retour sur lui-même. Comment se fait-il que tant d'hommes s'arrêtent dans la recherche de la vérité ? Alors, vous devez comprendre cela, le recevoir, et pour cet homme, quelqu'un qui lui enlève cette barrière, qui le rend accueillant. Si vous êtes accueillant, il sera lui-même accueillant. Si vous êtes fermé, il sera lui-même fermé. Il y a une espèce de lien comme ça qui se fait immédiatement. Être accueillant vis-à-vis de l'autre, parce qu'on est pauvre. On garde la vérité, on est possédé par la vérité, on l'aime d'autant plus qu'on sait que la vérité nous est donnée gratuitement. Si je peux atteindre certaines choses au point de vue métaphysique, c'est gratuit, je ne le possède pas. Donc vis-à-vis de celui qui est en face de moi et qui, lui, ne comprend pas cela, s'est arrêté à un niveau humain. Et il ne s'est pas ouvert à quelque chose qui dépasse l'homme, à une vision de sagesse. Et que pratiquement, sa prudence est tout entière tournée vers l'homme. Et il oublie que l'intelligence humaine toujours nous permet de dépasser l'homme et de ne pas s'arrêter à ce qui est humain, qu'il y a autre chose. Cette autre chose pour vous, si vous êtes chrétien, c'est très net. Si vous êtes philosophe, c'est très net. Mais pour l'autre, qui ne voit pas ça, qui s'arrête à un point de vue limité, au point de vue de l'intelligence, si vous êtes pauvre dans votre recherche intellectuelle qui n'a pas, vous serez accueillant vis-à-vis de cet homme qui, pour vous, est un pauvre. Il n'a pas été jusqu'au bout. Vous voyez ? Il y a deux manières de ramasser quelqu'un qui est tombé. Ou vous lui tendez la main, qui vous tendent la main, ou vous vous penchez pour le ramasser. Et vous vous mettez plus bas que lui, puisque vous le ramassez. Et c'est très net, hein, ça se voit très très finement, très nettement dans les gestes. Quand l'enfant tombe, un gosse tombe, le père lui tend la main. Et puis il pleure, il continue de pleurer, il n'a même pas la force de donner la main. La mère part derrière, elle se penche et prend. Il y a deux actes de miséricorde qui sont très différents. Donner simplement la main à quelqu'un, le ramasser. Bien, au point de vue intellectuel, traduisez ça par l'intelligence. Il y a celui qui sait, qui possède la vérité. Alors, il dit, il affirme sa vérité. Suis-moi. Mais l'autre ne peut pas le suivre. Il est enrayé. Et il y a cette attitude accueillante qui fait « je t'écoute, j'essaie de comprendre ». On se penche vers lui pour aller vers lui. Donc on est pauvre, on l'accueille. On n'a pas de droit à l'acquisition de la vérité. Ça nous est donné gratuitement. Nous savons que c'est un don gratuit de Dieu pour nous. Nous avons travaillé pour ça, nous avons désiré cela, mais nous savons que la possession de cette vérité, en définitive, c'est un don de Dieu. Et un des dons les plus magnifiques de Dieu, c'est un don spirituel, qui est au-dessus de toutes les corruptibilités, de tous les avaries, de tout ce qui peut arrêter. C'est un don spirituel. Alors, la pauvreté qui consiste à ne pas posséder pour soi, mais à garder le désir d'une vérité. Et si on a ce désir de vérité, même celui qui ne la possède pas, mais qui tant peut m'apprendre quelque chose. Tout être humain dans une recherche, quand il est dans une recherche philosophique. m'apprendre quelque chose. Il me permet d'aller plus loin. Ça, c'est, je crois, très important pour nous. Surtout que nous vivons dans un monde où cette recherche de la vérité et où la possession de la vérité est si rare. Même ceux qui devraient rechercher la vérité, tous les prêtres devaient chercher la vérité, tous les évêques devraient chercher la vérité. Or, ils sont arrêtés constamment par des soucis matériels, par des craintes. Alors, on doit vis-à-vis de ces personnes où elles sont contaminées par des idéologies fausses, où elles n'ont pas eu le courage que Jésus demande de ne pas avoir de tunique de rechange. C'est un symbolisme très net. Et d'avoir que le strict nécessaire, être dépouillé de tout ce qui n'est pas absolument nécessaire. Dépouillé quant au droit de possession. À l'usage, c'est différent. Jésus dit, si vous êtes reçu dans une maison, profitez-en. Donc l'usage. Il ne dit pas du tout, allez jeûner, allez sur... Non, non. Si vous êtes reçu dans une maison, très bien. Cette maison sera bénie de vous recevoir. Oui, l'usage et les droits de propriété. L'usage des biens, l'usage des instruments, l'usage de tout ce qui peut nous aider. Ça, c'est limité par notre prudence. On n'a pas le droit de se perdre dans l'usage des instruments, mais on a le droit d'en user correctement pour aimer plus. Donc, la béatitude de la pauvreté, elle doit pouvoir se défendre comme quelque chose que loin d'arrêter la recherche intellectuelle permet à cette recherche intellectuelle d'aller jusqu'au bout. Elle rejoint ce qui est caractéristique ce qui est dans l'homme. Maintenir un désir, un appétit, d'aller toujours plus loin, c'est fondamental. Donc, défendre la béatitude des pauvres dans notre monde d'aujourd'hui, la défendre des deux façons, en vivant soi-même de cette béatitude et en essayant d'en montrer le fondement positif, c'est quelque chose de très grand. Et selon l'Évangile, nous voyons que c'est capital pour être pour l'apôtre. Celui qui n'est pas apôtre, ah, ce sera capital pour lui, pour la recherche de la vérité. Mais ce n'est pas immédiatement capital. Tandis que pour l'apôtre, c'est immédiatement capital. Pour garder une espèce de liberté beaucoup plus profonde dans cette recherche de la vérité.